notre table ronde a pour objet un peu de prospective. Je pense déjà que nous avions abordé le sujet, mais je vais le voir de mon côté en pensant à quelqu'un dont nous n'avons pas encore vraiment parlé depuis le début de cette journée. C'est notre client, c'est notre client commun, c'est le justiciable, celui qui va demander une expertise ou celui qui va se l'avoir imposée parce que le tribunal, en examinant sa demande, va considérer qu'il n'est pas suffisamment informé et qu'il a besoin de l'œil du technicien pour aller sur place. Et si je souhaite démarrer par lui, c'est parce que je pense qu'en la matière, et en matière de coûts, on est dans une situation d'inégalité d'un bout à l'autre. Le justiciable subit l'expertise. Il a besoin d'une preuve, il ne l'a pas, il est obligé d'y passer. Donc, il sait, par son avocat, qui doit l'en informer, qui doit le prévenir, qui doit lui annoncer ce qui va en résulter pour lui, il doit appréhender le coût de l'expertise. Alors moi, je vous le dis tout net, je n'ai pas de problème, les avocats, d'une manière générale, n'ont pas de problème avec la rémunération des experts. Mais un coût, c'est un coût. J'ai un exemple que connaît mon ami Jean-François, qui est celui d'un dégât des eaux dans un appartement parisien. Ce n'est quand même pas extraordinaire qu'un robinet qui a fui au-dessus, ou une culotte mal fixée dans un mur, à 20 000 euros et 4 années d'expertise. C'est donc un sujet de préoccupation pour le justiciable. Et donc, on s'aperçoit qu'il est en inégalité d'un bout à l'autre, le justiciable. Le particulier, ça a été évoqué ce matin par l'un des organisateurs du débat qui nous a dit « Attention, pensez à la TVA ». Et c'est vrai que pour un particulier, c'est 20% quand même. Ce n'est pas négligeable. Mais il n'y a pas que ça. L'entreprise, elle a de la chance, si je puis dire, c'est que le coût de l'expertise, elle va le passer en frais généraux. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous avons donc déjà des clientèles et nous avons une inégalité de départ. Alors vous allez me dire, vous êtes bien gentil avec votre inégalité, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, nous, à notre niveau? Bien, à notre niveau, y réfléchir. Parce que on a une possibilité de remédier à cet état d'inégalité dès l'origine. Aux avocats de le demander, de le présenter, de le soutenir, aux magistrats de les écouter et éventuellement de leur donner raison. C'est le principe de ce que l'on appelait dans le temps la provision ad litem. Ça peut faire sourire, de reparler latin surtout. Mais on s'aperçoit que la règle de la provision au demandeur est une nécessité. C'est lui qui demande, si ce n'est pas lui qui finance, c'est sûr que ça ne se fera pas. Donc c'est une nécessité. Pour autant, on s'aperçoit que dans beaucoup d'affaires, même si la responsabilité, la faute n'est pas clairement établie, il y a quand même des fortes présomptions qui permettent, à hauteur de 1500 ou 2000 euros pour amorcer une expertise, de faire droit à une demande annexe à la demande d'expertise, de provision ad litem, et de dire au défendeur, vous aurez à payer cette provision. Le dégât des eaux, à 20 000 euros, il vient d'où? Du voisin du dessus, lequel, en droit, même sans faute, est responsable des gouttes d'eau qui viennent de son lavabo. Ça suffit. Et on pourrait lui dire à lui, c'est gentil, mais amenez. Donc, on peut réfléchir à combler cette inégalité au départ. Pendant l'expertise, on a le phénomène ou des extensions de mission avec les provisions complémentaires ou des frais qui sont demandés parce qu'une partie dit « je veux sonder dans ce mur, ouvrir ceci, ouvrir cela, etc. » Là encore, mais j'ai été content de l'entendre à plusieurs reprises aujourd'hui et notamment par Monsieur le Premier Président, on a également la possibilité, à l'occasion de l'ordonnance qui ordonne l'extension des opérations d'expertise, de dire ce sera la charge de l'un des défendeurs ou d'un autre. De même, si un coût d'investigation important est sollicité par une des parties, mettre à sa charge le coût de cette investigation, de façon à ce que ce ne soit pas le demandeur qui subisse, car là, vraiment, on le prive de son accès au droit, et c'est ça qui est important. Je sais que je dois aller vite, donc j'avance rapidement, et j'en arrive au dépens. En matière générale, en règle générale, pardon, les dépenses sont à la charge de celui qui perd son procès, c'est un bon principe, j'en connais pas de meilleur. Mais en matière d'expertise, je pense que ça peut être aussi l'occasion de responsabiliser. Vous avez quelqu'un qui vient vous dire « je demande une expertise parce que j'ai, en caricaturant, 25 lignes de reproches à faire à mon voisin, à mon entrepreneur, à ce qui vous voulez. » Puis au bout du compte, il a raison sur deux points. Est-ce qu'il est normal que le défendeur perdant paye la totalité des frais de l'expertise? Ça aussi, ça fait partie des choses que les avocats, sur lesquelles les avocats doivent réfléchir, doivent demander et sur lesquelles les juridictions doivent pouvoir intervenir pour responsabiliser et gommer les inégalités en matière d'expertise. Comme le temps avance, je n'irai pas beaucoup plus loin et en matière de prospective, je voudrais simplement faire une dernière intervention. Je ne suis pas sûr qu'en la matière, le juge soit l'avenir de l'expertise. Pardon, messieurs les magistrats, avec amitié, je le dis. La mode est plutôt, au règlement amiable des litiges, à une forme de déjudiciarisation. Je pense que la justice en matière civile a un gros problème de structure, peut-être dû justement à sa gratuité. Et il n'est pas impossible qu'avec le temps, notre société n'évolue sur ce sujet avec un retour d'une justice privée qui sera financée par ceux qui animeront la justice privée. Et donc, par les clients, et donc par un retour peut-être à l'arbitrage et à la médiation expertale, ce qui en la matière vous sera extrêmement profitable. Merci de votre attention.
La prospective, je parle évidemment de la place de l'expert, du point de vue de l'expert, c'est la poursuite inlassable de la marche vers l'excellence et non pas la recherche d'une limitation artificielle du prix d'expertise. Car un expert convenablement rémunéré dans des délais raisonnables sera, c'est évident, beaucoup plus efficace et diligent qu'un expert mal rémunéré avec retard. Le premier déposera dans les meilleurs délais un rapport de qualité, qui permettra la poursuite sereine du procès, enfin sereine entre guillemets, conduisant à une économie de temps et d'argent pour la justice et pour les justiciables. La prospective au pénal, c'est la poursuite obstinée de l'action du Conseil national contre la modicité, parfois l'indigence, voire l'indécence, c'est toi qui avais dit ça à un colloque, des rétributions dans les expertises tarifées. C'est la réitération opiniâtre de ces actions d'alerte et de recours auprès de la chancellerie afin de prévenir, ça a déjà été dit plusieurs fois, la désertion de tous les experts confirmés, découragés par une rémunération dissuasive, je pense aux professions de santé, ou une concurrence déloyale, je pense aux traducteurs et aux interprètes. La prospective au civil, c'est une harmonisation nationale des fourchettes horaires par discipline, ça a été aussi évoqué, et la revalorisation des taux afin que la juste rémunération prévue par les textes, je crois que c'est toi qui l'as rappelé, se rapproche de celle que l'expert reçoit dans son exercice professionnel. La prospective, c'est la reconnaissance de l'intérêt de la fixation contradictoire avec les parties, pas seulement avec le juge, d'un taux horaire supérieur au maximum de la fourchette dès lors qu'une expertise s'annonce particulièrement complexe. La prospective, c'est le règlement rapide des demandes d'avance lorsque des ordonnances communes, on connaît ça en construction, hachent le déroulement des opérations et en retard de le cours, l'expert n'a pas à supporter des années durant les conséquences des manœuvres dilatoires des parties. La prospective à l'administratif, c'est le paiement des diligences aussi rapides dans les expertises avant dire droit que dans les expertises en référé pour éviter tout recours long, éprouvant, coûteux et aléatoire. Plus généralement, la prospective, c'est l'obtention des bornes aux contestations stratégiques de la note de frais honoraire de l'expert, mais c'est aussi que tous les experts soient assurés par la garantie négociée par le Conseil national auprès de Sophie Assure. La prospective, c'est la dématérialisation. Alors le programme, le nôtre, a été assez difficile à mettre en œuvre, car c'est, on l'avait un peu évité au début, mais ça nous est tombé dessus, c'est un vrai projet industriel avec beaucoup de zéros et quelques 1. On y est presque, vous pourrez l'utiliser dès 2015. La prospective, c'est la place de l'expert français dans l'espace européen, l'exposition de la valorisation de ses compétences dans ce qui sera demain notre champ géographique d'action. Notre colloque de l'automne 2016 à Strasbourg y sera en grande partie consacré. J'espère vous y retrouver nombreux. Être convenablement rémunéré dans un délai raisonnable, être protégé et défendu, le Conseil national s'y emploie chaque jour. La contrepartie, c'est que chaque expert progresse constamment et manifeste d'incontestables compétences techniques, pédagogiques, déontologiques et procédurales. 20 heures de formation annuelle sur la base des modules conçus par la Commission formation et qualité dans l'expertise du Conseil national ne sont pas superflues pour remplir avec honneur et conscience, impartialité et indépendance, efficacité et diligence, en toute transparence et dans le respect des codes, selon la juridiction, les missions qui nous sont confiées. Ces conditions réunies, la demande de rémunération de l'expert sera alors considérée comme le juste prix par le juge taxateur et payé comme tel dans un délai qui ne devrait jamais dépasser 45 jours, car on est à la limite là des marchés publics dans l'esprit tout du moins. Indépendamment de ce que nous obtiendrons du législateur français et européen, la prospective, enfin, c'est aussi que chaque expert n'oublie pas qu'il est et devra rester un professionnel appelé occasionnellement et temporairement dans l'expertise et non pas un professionnel à temps complet de l'expertise. Merci.
Bien, quand on parle de dernier, on arrive toujours un peu trop tard. Beaucoup a été dit. Qu'est-ce que l'on pourrait retirer de toute cette journée ? D'abord, Monsieur le Président, qu'en mars 2012, vos compagnies avaient organisé à la Cour de cassation un important colloque entre magistrats, entre avocats et experts, colloque qu'il avait intitulé « L'expertise, espace de compréhension ». Compréhension. Moi, je crois d'abord qu'il faut retenir le mot « compréhension ». Compréhension par le justiciable, d'abord, que l'expert n'est pas l'expert des parties, mais l'expert du juge. Nous ne sommes pas dans les pays de common law. L'expert est l'expert du juge. Ça, les parties doivent le comprendre. Deuxième compréhension, résultant de la première, de la part des experts, c'est que l'expert, ayant conscience qu'il exerce un véritable assessorat judiciaire, doit être habité par trois vertus, je dirais, théologales. L'exigence d'excellence, car l'expertise, ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas de l'acceptable, ça doit être de l'excellent, parce qu'il s'agit de la justice. Deuxièmement, que l'expert doit être habité par le souci du contradictoire, car il s'inscrit dans un procès où il y a des parties. Et qu'enfin, l'expert doit être habité par une impartialité absolument insusceptible de critique. Impartialité subjective, mais impartialité objective par l'image qu'il renvoie, par la délicatesse qu'il doit manifester à l'égard des parties et par le sens de l'écoute qui doit être le sien. Et puis, dernier stade de la compréhension par les magistrats. La compréhension par les magistrats des servitudes de la fonction expertale. Et au premier rang de ces servitudes, il y a cette problématique qui nous réunit aujourd'hui, qu'est la problématique de la rémunération de l'expert. Alors, pendant longtemps, le juge s'en est très peu occupé, comme si la préoccupation de questions mercantiles était quelque chose de plus ou moins honteux. Le juge allait-il s'abaisser à s'occuper des problèmes d'argent ? Passer auprès de mon ouvreuse, elle s'occupera de recevoir votre rémunération. Non, on ne peut pas s'en désintéresser. On ne peut pas s'intéresser, vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, l'expertise en France est en situation de crise. Et nous, magistrats, nous avons le sentiment que d'excellents professionnels renoncent à exercer cette activité au service de la justice et que nous constatons, dans un certain nombre de branches d'activités professionnelles, une désertification inquiétante. Nous avons actuellement le départ, comme dans la magistrature, du baby-boom d'un certain nombre d'experts, je pense aux experts psychiatres. Regardez actuellement dans nos cours d'appel les vagues qui viennent remplacer les experts psychiatres qui s'en vont. Cela est tout à fait inquiétant. Donc, un magistrat qui ne s'occuperait pas des voies et moyens par lesquels l'expert est rémunéré, eh bien, est un magistrat qui ne se préoccuperait pas de ce que doit continuer à être l'expertise dans notre pays. Alors, ceci dit, il y a ce problème du juste prix. Oui, l'expert peut prétendre être rémunéré au juste prix. Est-ce que le juste prix judiciaire peut être le juste prix du marché? Est-ce que l'on peut courir derrière le mercato de l'expert qui, dans son activité privée, est payé à un tarif important? On évoquait le cas de ces comptables de sociétés qui sont payés à des tarifs extrêmement importants. Et doit-on, évidemment, exiger que l'expert judiciaire eh bien, soit payé à la même hauteur? Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. L'expertise judiciaire, cet assessorat judiciaire, ne pourra jamais être payé à la même hauteur que l'activité libérale de l'homme de l'art auquel nous faisons appel. Alors oui, je suis de ceux qui pensent, en effet, qu'être expert au service de la justice, ce n'est pas quelque chose de banal, que c'est quelque chose qui représente dans le statut professionnel d'un homme de l'art quelque chose de notable. Néanmoins, c'est vrai, nous devons nous approcher le plus possible de ce qui est en droit d'attendre tel ou tel technicien vis-à-vis de la prestation qu'il va apporter au service de cette justice qui, encore une fois, exige de lui l'excellence. Alors, on arrive à la première difficulté. La première difficulté, c'est la pétition de principe extrêmement alléchante, extrêmement séduisante, à savoir qu'au début des opérations, in limine litis, in limine de l'expertise, une provision doit correspondre le plus possible, le plus près possible, à la facturation définitive. Et de dire, et ça a été dit ce matin avec beaucoup de conviction, comment peut-on prétendre fixer une provision initiale dans le brouillard souvent dans lequel nous nous trouvons? Et il y a des phrases de Mme Menotti extrêmement pertinentes dans le rapport écrit que vous avez entre les mains, indiquant notamment que dans le cadre notamment de la procédure de référé, il faudrait véritablement que le juge des référés soit Madame Soleil pour, au moment où il va fixer sa consignation, deviner dans le détail quel va être le déroulement de l'expertise. Néanmoins, le justiciable est en droit d'exiger un minimum de prévisibilité. Le justiciable au civil, c'est lui qui va payer la facture. Alors je sais bien que la plupart du temps, c'est celui qui succombe, bien que, et ça a été rappelé avec raison, rien n'impose au juge de ventiler entre les parties, y compris la partie qui n'a pas perdu le procès, une partie du coût de cette expertise, bien sûr. Alors, oui, on va avoir beaucoup de difficultés. Oui, on va avoir beaucoup de difficultés, et cette difficulté, elle n'est pas passée inaperçue en 1977, lorsqu'il y a eu la conférence de consensus entre la Cour de cassation et la conférence des premiers présidents. Ce problème-là, il a déjà été abordé. Et qu'a dit la conférence de consensus en 2007? Elle a dit, bien voilà, je vous préconise une bonne pratique. Je vous préconise une bonne pratique qui consiste à opérer cette fixation initiale en deux temps. Premier temps, une ordonnance. Une ordonnance qui fixe une provision initiale, avec un calendrier. Et puis, cette ordonnance et ce calendrier, eh bien, ça va être discuté entre les parties au cours d'une première réunion. À l'issue de cette première réunion, on reviendra devant le juge en indiquant que le calendrier peut être tenu ou ne peut pas être tenu, doit être allongé ou ne peut pas être allongé, et surtout que cette première réunion a fait apparaître la nécessité de telle ou telle investigation qui éventuellement exige la fixation d'une provision complémentaire. Et c'est là, dit la conférence de consensus, à l'issue de cette seconde saisine du juge, que le juge pourra ajuster par une ordonnance de provision complémentaire, eh bien, sa provision initiale, les deux devant approcher le plus possible la facturation de l'expert. Alors voilà, c'est une piste avec toutes les difficultés. Moi, je suis de ceux, en effet, qui pensent qu'un contact avec l'expert est nécessaire. Et on parlait tout à l'heure de ce coup de téléphone, on parlait tout à l'heure de cette rencontre, on parlait de l'initiative intelligente d'un juge d'instruction qui, dans une affaire comptable difficile, financière difficile, eh bien, demande à celui qu'il pressent comme expert de voir un peu les pièces qui vont devoir être exploitées pour qu'il puisse avoir une idée de ses investigations et fixer la hauteur des diligences et par voie de conséquence de sa rémunération. Mais on n'échappe pas au débat d'aujourd'hui. Est-ce que l'on doit, d'une manière nationale, barémiser les expertises judiciaires? Vous avez des gens qui le soutiennent. En disant, on est devant un tel manteau d'arlequin à travers les 163 tribunaux de grande instance de France, qu'il faut barémiser les expertises judiciaires. Alors on arriverait, si on les suit bien, à une espèce de cotation de l'expertise, comme le sont les actes médicaux par la sécurité sociale. Je pense que c'est une vue de l'esprit. Et c'est une vue qui ne représente pas l'esprit de la loi. L'expertise, elle est spécifique, de même que chaque affaire judiciaire est spécifique. La fuite d'eau que vous évoquez dans la centrale nucléaire et la fuite d'eau de la voisine ou du voisin du dessus, c'est de nature différente. On ne peut donc établir un barème impératif. Et lorsque la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, vous avez cité tout à l'heure la jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de 2012, s'est hasardée à établir un barème impératif, elle a immédiatement été sanctionnée pour la simple raison, c'est que l'autorité judiciaire ne dispose pas du pouvoir réglementaire qui appartient, vous le savez, aux organes exécutifs ou législatifs. On ne peut pas, nous juges, fixer des barèmes impératifs. Par contre, nous avons toute latitude, et je suis un fervent partisan de cela, d'établir des barèmes indicatifs. Bien évidemment, on n'a pas des barèmes pour toutes les expertises, ça serait complètement idiot. Des barèmes qui sont établis branche d'activité par branche d'activité. Je vous engage à aller sur Google et à aller voir le barème de la Cour d'appel de Bordeaux, présidé par Madame Chantal Bussière, qui a animé, et vous en étiez, Monsieur le Président, cette commission qui faisait le point avec le procureur général Autain sur l'état de l'expertise en France. Vous avez dans la Cour d'appel de Bordeaux un barème, branche d'activité par branche d'activité, qui, pour certaines activités, fixe des fourchettes horaires, et pour d'autres activités, fixe des forfaits. Ce matin, dans l'atelier sur la médecine, on a parlé de ce problème. Doit-on fixer des forfaits? Doit-on fixer des tranches horaires? Eh bien, vous voyez, pour la santé, puisqu'il y a évidemment une rubrique santé, eh bien, une expertise tout venant en matière médicale, eh bien, on prévoit un forfait qui pourrait être autour de 700 euros. Par contre, dès lors que l'on tombe dans des expertises médicales complexes, notamment en matière de responsabilité médicale, eh bien là, on préconise un paiement à l'heure, 125 euros, etc., etc. Et on voit, pour toutes les activités, l'interprétariat, le bâtiment, les arts, la culture, l'agriculture, l'industrie, l'économie et les finances, des propositions. Ce sont des propositions qui sont intéressantes parce qu'elles harmonisent. Je crois déjà que dans nos cours d'appel, il y aurait dans toutes les cours d'appel un barème qui s'applique à l'ensemble des tribunaux de la Cour, ça serait déjà un progrès. Quand on voit qu'au sein d'une même compagnie d'experts, selon que l'on s'adresse à un tribunal à 10 ou 20 kilomètres de distance, les tarifs sont différents et quelquefois notoirement différents. Déjà, au sein d'une cour d'appel, il faut qu'il y ait des barèmes indicatifs, des fourchettes. Il ne s'agit pas d'imposer, puisque chaque affaire est spécifique. Et que chaque expert est en droit de faire valoir sa spécificité, sa notoriété, son expérience, les structures qu'il va mettre à disposition, les équipements qu'il va mettre à disposition pour telle ou telle expertise. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut fixer, il faut indiquer par un certain nombre de barèmes indicatifs. Et vous l'évoquez il y a quelques instants, vous alliez plus loin en appelant à une harmonisation de ces barèmes au niveau national. Car le second étage de la fusée, c'est qu'après qu'une généralisation de ce système de barème indicatif soit adoptée par l'ensemble des cours d'appel, eh bien le second étage, la seconde démarche, consisterait à voir si sur le plan national, on ne pourrait pas donner des barèmes, encore une fois. Dire au juge, ben voilà, dans quel ordre, l'ordre d'idées dans lesquelles les choses se passent. Et j'ai vu avec intérêt il y a quelques instants, quand la province et Paris, en matière comptable, il n'y avait pas d'énormes différences. Parce que là aussi, s'il y a dans certaines matières de très grandes différences peut-être entre Paris et la province, je sais que dans d'autres matières, la différence n'est pas aussi notable. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, il a moins été évoqué, mais il faut le dire aux civils, c'est les retards de règlement qui nous sont imputables à nous, magistrats. Alors, il y a le fonctionnement de nos tribunaux. Là, ce n'est pas un problème de frais de justice. On a de l'argent qui traîne dans les greffes, de l'argent, des provisions qui ont été consignées et pour lesquelles les restitutions, eh bien, connaissent des retards incompréhensibles. Et puis, elles tiennent quelquefois, ces restitutions, elles souffrent de retards incompréhensibles pour des interprétations jurisprudentielles curieuses. Vous savez que certains tribunaux attendent la fin du procès pour régler l'expert. Alors que le rapport ayant été déposé, rien n'impose que l'on attende que la décision soit, au fond, soit rendue, quelquefois même à l'issue des délais de voie de recours, pour qu'on se dise, ben, il y a de l'argent, il faut qu'on paye l'expert. Ce sont des retards-là qui peuvent être, qui devraient être facilement corrigés. Mais l'autre problème, et on en a peu parlé, c'est la sécurité de la rémunération. Parce que l'expert judiciaire se trouve souvent confronté, soit à la mauvaise volonté de la partie qui doit l'honorer, soit à l'insolvabilité organisée ou inorganisée, mais elle existe souvent, du dit débiteur. Surtout lorsque l'on a attendu la fin du procès pour commencer à s'occuper de la rémunération de l'expert. Et là, je crois que notre Cour de cassation, j'ai beaucoup de respect pour la Cour de cassation, a eu tort dans sa jurisprudence déjà ancienne qui devrait évoluer, de raisonner en termes de faute du service public de la justice pour dire que les experts ne peuvent pas se retourner contre l'État lorsqu'ils sont en face d'un débiteur totalement insolvable. Le service, la responsabilité de l'État en matière de fonctionnement défectueux du service public de la justice, elle existe vis-à-vis du justiciable, mais vis-à-vis de celui qui est un collaborateur du service public de la justice. Ce n'est pas du tout cette notion-là. La meilleure preuve, c'est que le Conseil d'État, dans l'arrêt Aragon de 1967, a dit le contraire de la Cour de cassation. Le Conseil d'État a dit dans l'arrêt Aragon, vous êtes des collaborateurs du service public de la justice, c'est vous, collaborateurs, qui avez la possibilité d'une action récursoire contre l'État lorsque le débiteur est défaillant. Je crois que là, il y a une évolution. Il y a une évolution et moi je pense que sur le plan législatif, ça là pourrait être réglé. On est en présence de deux jurisprudences tout à fait différentes. Il est anormal que l'expert qui opère au profit d'une juridiction administrative soit assuré qu'en cas d'impécuniosité du débiteur, eh bien, il y aura possibilité d'être rémunéré. Je pense que là, il y a véritablement un problème. Alors, je termine, car malheureusement, les délais sont très brefs. Le pénal, vous avez tout dit, vous avez rappelé les chiffres. Alors je sais bien que pour les médecins légistes, aujourd'hui, le problème est moins prégnant, puisque les chiffres ne concernent que ceux qui viennent en second rideau, puisque les premiers rideaux, si l'on peut dire, font partie de ces nouvelles structures de médecine légale, puisque maintenant la réforme de la médecine légale fait que les médecins experts qui interviennent sur les plateaux techniques ne sont pas rémunérés directement, vous le savez, mais il est indécent. Pour tous ceux qui, d'entre nous, magistrats, ont assisté à des autopsies, notamment des autopsies de corps putréfiés, de voir que l'État honore un médecin, docteur en médecine, de 230 euros pour pratiquer pendant de longs quarts d'heure l'autopsie d'un corps putréfié. Nous avons, les uns et les autres, il y a des anciens parquetiers sans doute dans la salle, quelques souvenirs qui nous montrent que véritablement nous avons une image un peu, nous sommes un peu pingres. Et puis vous savez que là aussi, c'était un arrêt du 17 janvier 2012, lorsqu'une cour d'appel a estimé qu'un psychiatre avait eu un dossier particulièrement difficile et avait osé demander non pas les 277 euros, mais 450 euros compte tenu de la difficulté. Cette cour d'appel avait dit qu'en effet, vu la complexité du dossier, on pouvait dépasser. Il y a eu une sanction immédiate de la Cour de cassation. C'est tarifé, circulé, il n'y a rien à voir. Et pour le cas où on l'oublierait, la chancellerie s'est empressée quelques semaines plus tard de nous adresser une belle circulaire nous disant « halte là, vous ne devez pas dépasser d'un centime tout ce qui est tarifé ». Alors, je terminerai par quand même quelques ouvertures. La première ouverture, c'est quand même le décret du 26 août 2013. Nous avons eu un décret du 26 août 2013 qui, enfin, a définitivement indiqué que les indemnités de déplacement allaient être réglées. Car pensons à certains experts psychiatres qui, dans certains ressorts, n'étaient pas remboursés de leurs frais de déplacement. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Les choses sont claires aujourd'hui. Les experts au pénal sont indemnisés comme vous, comme tous les magistrats, comme tous les agents de l'État, personnel civil de l'État. Il y a un certain nombre d'indemnités. Alors c'est vrai, c'est le 0,35 du kilomètre. Que nous ayons une deux chevaux ou une Mercedes, plus exactement la deux chevaux, c'est encore moins. C'est la Mercedes qui est à 0,35. Nous avons 15,25 € par repas. Nous avons 48 € la nuit en province et 60 € la nuit à Paris. C'est vous dire que chaque semaine que je passe à Paris au CSM, ça me coûte une certaine somme d'argent, car je mets au défi quiconque de trouver, sauf un bouge du Faubourg Saint-Denis, une chambre à 60 €, peux-tu déjeuner compris. Donc vous soyez rassurés, mesdames et messieurs les experts, vous êtes exactement dans la même situation que tous les magistrats, quel que soit leur rang hiérarchique. Deuxième petite avancée, on a augmenté un petit peu l'indemnité de comparution des experts devant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. Elle est passée à 40,77 €. Et puis, il y a quand même eu une avancée. C'est la compétence générale donnée aux tribunaux de grande instance pour traiter l'ensemble des mémoires émanant tant des conseils de prud'hommes que des tribunaux d'instance. Ça, c'est un progrès. C'est un progrès car on va quand même vers une centralisation entre les mains d'un juge qui devrait de plus en plus se spécialiser du règlement de ses mémoires. Ce juge, et on l'a très bien dit, qui ne doit pas être une arlésienne, qui ne doit pas être aux abonnés absents, qui doit avoir un téléphone et qui doit avoir une boîte mail. Et qui doit avoir une boîte mail que l'on peut interroger à tout moment, parce que l'expert, il a besoin, à un certain et en permanence, d'avoir quelqu'un qui peut répondre à ses interrogations. Ça, je pense que ce magistrat centralisateur est tout à fait utile, et ce magistrat centralisateur, c'est une autre disposition du décret, a fait disparaître la compétence exclusive qui existait pour les juges d'instruction, les juges des enfants, les juges d'application des peines, de viser les mémoires relatives aux opérations qu'ils avaient ordonnées. On avait beaucoup de retard dans les tribunaux. On nous disait, il y a des mémoires qui se promènent. Il fallait partir un peu à l'aveuglette. Pas à l'aveuglette, mais il fallait partir à la pêche. Est-il dans le cabinet du juge d'instruction, en attente de traitement? Est-il dans le cabinet du juge des enfants? Les experts, aujourd'hui, n'auront plus à faire cela. Ils adressent directement, depuis le décret du 26 août 2013, au magistrat en charge du service des expertises leur mémoire, et c'est lui qui peut les traiter sans avoir à passer par le magistrat qui a prescrit. Puis il y a eu l'arrêté du 16 décembre 2013 qui a relevé de 460 à 1500 euros les frais de justice soumis à la procédure de certification. Ça aussi, ça devrait être de nature à accélérer. Jusqu'à 1500 euros maintenant, on n'a plus à certifier. Et puis il y a le dernier décret, vous l'avez évoqué. C'est le décret du 7 mai dernier, relatif à la dématérialisation. C'est un très grand progrès qui s'annonce, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de papier. C'est-à-dire qu'un portail Internet va être ouvert à l'ensemble des prestataires, c'est-à-dire à vous-même experts, et que c'est par voie dématérialisée que vous allez présenter votre facture. C'est par voie dématérialisée que vous allez adresser les éléments de votre facture. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, j'aurais aimé le faire sur les factures qui doivent être vraiment faites en deux parties, les frais et débours et les honoraires. Plus la facture est claire, mieux cela vaut. J'aurais pu encore employer quelques temps à le dire. Ce portail Internet devrait faciliter les choses. Alors depuis le début mai dernier, l'opération est en expérimentation dans les cours d'appel de Colmar, de Metz et de Rennes. Il y a trois cours d'appel qui, depuis un mois, même pas, sont en train d'expérimenter ce nouveau système, qui devrait être de nature à accélérer considérablement les choses. Malheureusement, on ne peut pas tondre un œuf, et les tribunaux ne peuvent vous donner que ce qu'ils peuvent vous donner, c'est-à-dire dans la limite de leur abondement. Ce n'est pas nous qui disposons des fonds que nous alloue l'administration centrale. Et nous sommes aujourd'hui dans une crise des frais de justice absolument terrible. Les frais de justice en France, c'est 477 millions d'euros en 2013, 477 millions d'euros, plus 14,9% par rapport à 2012. Vous allez me dire, on est dépensiers, mais pas du tout. C'est qu'en permanence, le législateur prévoit dans des textes l'obligation d'un certain nombre d'investigations expertales, en matière d'expertise psychiatrique pour tous les problèmes de sortie de prison, là, on en a parlé, tout le problème des empreintes génétiques, etc., etc., et tout ça, nous n'avons pas le choix. Nous devons, bien évidemment, recourir à l'expert. Ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, les frais de justice sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la crise que vous connaissez, les retards qui vous sont imposés, et je sais que certains experts, dans certaines matières, eh bien, sont dans le rouge. J'ai vu à Lyon des experts me disent « Je suis dans le rouge au niveau de ma banque parce que je fais 70 ou 80% de mon activité, j'ai 70 ou 90% de mon activité au service de la justice, ben comme je ne suis pas payé, je suis dans le rouge. » C'est peut-être trivial de dire ça à la fin d'un colloque, de parler de monnaie à ce niveau-là, mais c'est un problème. Alors moi je termine en disant « Ne croyez pas que les magistrats sont tout à fait indifférents à cela. » Parce qu'encore une fois, nous savons bien qu'il ne faut pas faire d'expertise pour l'argent. Malheur à celui qui demanderait être inscrit comme expert, soit pour sa carte de visite, dans l'espoir qu'il n'aura jamais d'expertise, mais que son statut social sera amélioré parce qu'il est expert sur sa carte de visite, et malheur aussi à celui qui voudrait s'inscrire comme expert de justice pour arrondir ses fins de mois ou assurer un minimum de revenus. Non, je ne pense pas qu'on est expert de justice pour se faire de l'argent. On est expert de justice parce qu'on a un citoyen qui aime la justice et qui veut lui apporter eh bien, la science dont il dispose. Ce citoyen, il est tout à fait en droit d'exiger la légitime et la juste rémunération de sa prestation parce que c'est son travail et pendant qu'il fait ça, il n'a pas d'autre activité. C'est pour cette raison que nous sommes très conscients du problème que cela pose aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est bon que des réunions comme celle-là nous permettent d'échanger. Et c'est pour cette raison-là que nous ne pouvons pas nous contenter de la situation actuelle et que nous devons en permanence progresser. Ce qui fait que si vous, vous comprenez nos préoccupations, nous magistrats, nous devons comprendre les autres et progresser dans cet espace que vous évoquiez remarquablement en 2012 à la Cour de cassation.
Monsieur le procureur général, merci beaucoup. Maître Ocarbe, merci beaucoup. Jean-François, merci. Donc, je vous propose de poser des questions, si vous en aviez quelques-unes à exprimer.
Je me présente, Hubert Gilles, expert en génie thermique et climatique, cour d'appel de Metz. Ma question concerne les nomenclatures des professions. Ces professions évoluent constamment. Si on parle d'un informaticien aujourd'hui, il y a énormément de spécialités dans l'informatique. Dans mon domaine, c'est pareil. Par exemple, j'ai vu des avocats chercher des spécialistes photovoltaïques, alors que je m'étais présenté aussi au début pour cette partie. Et il y a un problème des juges et des avocats de retrouver des fois les experts dans certaines professions. Donc la nomenclature, elle est un peu figée. Je crois qu'elle mériterait d'être vue et d'être travaillée ensemble.
Alors le problème de la nomenclature, c'est qu'en France, je ne sais pas si
on n'entend pas.
S'il y a exactement, le chiffre peut faire sourire, mais il y a exactement 36 000 métiers. Alors, évidemment, il y a des métiers où il y a 3 personnes, c'est l'artisanat. Mais on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir un expert dans chaque discipline. Donc forcément, il y a des groupes. Et s'il est difficile sur la liste, sur l'annuaire de la Cour, sur le répertoire de la Cour de cassation, je suis bien là-bas, d'avoir un expert dans chaque discipline, doctrine, il n'est pas interdit à chaque compagnie qui édite en général des annuaires de mettre la compétence ou les compétences pour lesquelles l'expert membre est inscrit et d'ajouter les compétences complémentaires. Et monsieur le procureur général parlait de la dématérialisation, ça aussi, ça va permettre d'avoir...
Bon, alors oui, ça marche mieux, hein, je m'entends mieux. Ça va permettre aussi d'avoir des répertoires électroniques et de peut-être mieux indiquer sur ces répertoires, qui seront accessibles à tout le monde, à tous les magistrats, les compétences complémentaires. Il est impossible d'avoir une liste qui soit à jour, puisque constamment, et tu viens de le dire toi-même, dans ta discipline, il y a sans arrêt de nouvelles sous-disciplines. Il est impossible d'avoir sur papier un répertoire qui contienne toutes les disciplines. D'où l'intérêt, avant que ce répertoire électronique soit fait, que la compagnie fasse connaître aux magistrats par son fascicule annuel les compétences complémentaires. Mais évidemment, il faudra être bon dans ces compétences complémentaires.
Oui, j'ai rencontré ce genre de problème à deux bureaux près, au TGI de Metz, où la Chambre civile me connaissait en tant qu'énergéticien, mais la Chambre commerciale qui était à deux bureaux de là ne savait pas que je faisais aussi du photovoltaïque et ils avaient du mal à trouver un spécialiste. Donc c'est dommage que l'information circule mal. Je pense qu'il y a une amélioration à faire dans la communication et oui, peut-être ajouter les spécialités si c'est possible dans l'avenir de la gestion électronique.
Mais si nous ferons beaucoup, il ne faut pas oublier ce bon vieux proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera ».
Oui, tout à fait.
Il appartient aussi à chacun de se faire connaître.
Alors, juste pour... concernant donc les activités des uns et des autres, la compagnie de Reims envisage dans son annuaire qui sortirait normalement dans quelques semaines de pouvoir décrire quelles sont les spécialités des uns et des autres et les moyens dont ils disposent pour pouvoir réaliser leurs opérations.
Jean-Bernard Join, j'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui que les experts ont du mal à savoir faire connaître ce qu'ils savent faire, mais on fait rapport chaque année quand même. Que vous pouvez nous dire dans le ministère de la Justice, là, comment ces rapports sont distribués entre les juges, s'ils sont accessibles, parce que c'est quand même un élément de... Parce que moi, j'essaye, par exemple, chaque année, de bien dire, je suis intervenu sur un problème réseau, je suis informaticien sur un problème de base de données, sur non-conformité de logiciel. Donc tout ça, ça devrait pouvoir... Alors, je ne sais pas.
Alors, je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé, procureur général, non pas à Lyon, mais à Grenoble... Je me suis inquiété de savoir où en étaient les rapports annuels des experts. On m'a regardé avec de grands yeux, en me disant, le conseiller qui suivait les expertises me dit « Mais qu'est-ce que vous nous réclamez là ?» J'ai dit « Ben oui, l'expert doit rendre un rapport annuel, rendre compte de ses activités. » Alors j'ai envoyé une lettre aux experts, en leur demandant le rapport. Il y en a plus d'une vingtaine qui ne m'ont jamais répondu. J'ai donc dû me montrer plus méchant, en disant que s'ils ne voulaient pas envoyer le rapport, ben on en tirait les conséquences au moment de la révision de la liste. Et il est bien certain que si les cours d'appel ne manifestent pas un minimum de curiosité, d'abord pour pointer les experts qui envoient leur rapport annuel, il est quand même bon de savoir si des experts ont exercent ou pas. On a découvert que certains experts n'exerçaient jamais. Et deuxièmement, si ces rapports sont totalement indigents, qui se contentent de mettre un chiffre et qui ne donnent pas des précisions telles que les vôtres, vous l'avez très bien dit, on ne peut pas, nous, deviner la spécialisation de l'expert. Donc, il appartient aux compagnies et aux cours d'appel de se pencher sur ce problème du rapport annuel, de voir justement comment le dématérialiser, parce que ça éviterait aux experts de perdre du temps à faire du papier, des enveloppes et d'envoyer ça, pour que chaque année, alors on demandait que ça soit envoyé avant le 1er avril de chaque année, pour l'année précédente, vous voyez, on laissait largement un bon trimestre pour remplir ce rapport, mais ce rapport, c'est pas du flicage, ne le croyez pas, c'est pas du tout intrusif, c'est simplement pour qu'on puisse avoir une image de l'activité de l'expert, de sa charge, de son portefeuille. Pourquoi je prône, par exemple, le téléphone à l'expert ? Un expert honnête va vous dire, moi j'ai un tel plan de charge que je ne peux pas assumer votre expertise avant un délai d'eux. Aujourd'hui, les psychiatres ont leur téléphone en attirant leur attention sur des délais. On a eu une grève de détenus il y a quelque temps à la prison de Roanne dans le département de la Loire, car plus de 50 détenus étaient en état d'être placés en libération conditionnelle, mais pour eux, il manquait le rapport d'expertise psychiatrique. Et depuis 6 mois, on leur disait, ben messieurs, vous attendez tranquillement pour qu'on examine votre dossier de libération conditionnelle, parce que vous faites partie de ceux pour lesquels une expertise est nécessaire, et on n'a pas encore trouvé de médecin psychiatre pour venir la faire. C'est anecdotique ce que je vous dis là, mais ce n'est pas de l'invention. Hein. Donc là aussi, le rapport permet de voir un peu les plans de charge des uns et des autres. C'est utile. Mais encore une fois, l'expert qui reste chez lui, claquemuré chez lui, attendant qu'un juge lui téléphone, ne se faisant pas connaître, notamment lorsqu'il est dans des spécialités très pointues, il pourra attendre longtemps. C'est vrai qu'elle bouche à oreille. C'est vrai que dans un tribunal, lorsqu'on a enfin découvert un expert qui rend les rapports rapidement, donne satisfaction, ben c'est sûr qu'immédiatement ça va se savoir. Ah ben celui-là, tu peux y aller, il est absolument parfait, ses rapports sont clairs, nets, ils font autorité et il est toujours dans les délais. Et cet expert va avoir évidemment une avalanche de commandes.
Mais c'est l'objectif du rapport.
Je ne crois pas exagérer, monsieur le Premier Président.
C'est l'objectif du rapport, c'est de communiquer le nombre d'expertises et les délais dans lesquels... Voilà. C'est pas du tout de faire une communication sur la spécialité fine de l'expert.
Voilà, oui, il l'indique, mais c'est pas le but.
Il y a encore une question, si vous voulez bien.
Oui, Gérard Collin, expert judiciaire, incendie, explosion. Tout à l'heure, monsieur Maître Maury nous a parlé des dossiers dont on avait du mal à avoir dans le domaine de l'incendie et de l'explosion, on ne peut plus avoir que ce soit les rapports des sapeurs-pompiers, que ce soit dans l'eau, dans la Marne, dans la Haute-Marne, on ne peut plus les avoir, même en faisant l'intervention avec les magistrats. On les envoie en recommandé, c'est mis dans un coin, au SDIS, et on ne les a jamais. Qui doit nous répondre pour sortir nos dossiers les premiers? Ce sont les pompiers. Quelquefois, on nous envoie un torchon. C'est la simple et unique, le premier dossier qu'on a, ce sont les horaires, le rapport minute que l'on ne peut pas exploiter. On ne sait rien du tout. Alors quand on leur demande les messages d'ambiance qu'ils ont passés sur l'intervention, s'ils font des photos, et Dieu sait qu'ils en font maintenant, ou des vidéos, on leur demande, on ne peut jamais les avoir, et le message de rentrée, qui est quelquefois classé comme message de rentrée, ou le message du chef de groupe. On ne peut plus les avoir depuis 4 ou 5 ans.
Alors, ces difficultés, c'est dans le cadre d'une expertise civile, si je comprends bien. Oui, oui. Là, je le comprends parfaitement. À ce moment-là, retournez-vous vers le juge. Retournez-vous vers le juge. Et si le juge a besoin de cela, estime avec vous qu'il a besoin de cela, le parquet a des moyens de réquisition, de réquisitionner. Parce que l'incendie, une recherche des causes d'un incendie, c'est tout à fait dans les compétences du parquet. Donc si un juge nous demande, monsieur le procureur, veuillez nous faire obtenir telle ou telle pièce, puisque je comprends bien qu'un juge civil n'a pas de pouvoir de réquisition sur une administration, je peux vous assurer que le parquet le fera. Je crois qu'il faut vous retourner vers votre juge en disant « j'ai besoin impérativement du rapport des pompiers, faites le nécessaire ». Et à ce moment-là, les choses doivent passer. Il est anormal qu'un expert en matière d'incendie n'ait pas le rapport de première intervention des pompiers. Ça paraît évident, ça paraît évident.
Merci, excusez-moi. Je viens d'avoir 2 dossiers depuis le début de l'année, dont un qu'il fallait qu'il soit rapidement clôturé. J'ai fait intervenir le parquet, ils ont même eu du mal à l'avoir. Et comme je ne voulais plus, j'aime bien rendre mes rapports en temps et en heure, j'ai reçu un rapport 2 mois après que j'avais rendu mon rapport. Alors je ne sais pas comment il faut... Que l'on peut faire?
Je peux vous dire que c'est un dysfonctionnement inadmissible. C'est tout ce que je peux vous dire. Adressez-vous à votre juge. Votre patron, vous expert, j'ai parlé d'assessorat judiciaire. Votre patron, c'est votre commanditaire. Et le commanditaire, c'est le juge. C'est lui qui doit recevoir votre... Dites-le au juge, monsieur le juge, je ne peux pas mener à bien dans le délai que vous m'avez imparti ma mission parce que j'ai besoin de cette pièce-là. Puis tenez bon, si un expert incendie ne peut plus avoir aujourd'hui le rapport des pompiers, alors où va-t-on? Où va-t-on?
Oui, je vous confirme, voilà. Monsieur l'expert, ce que vient de dire monsieur le procureur général, c'est-à-dire que c'est effectivement au magistrat qui est chargé du contrôle des expertises qu'il faut que vous en référiez. Dans un premier temps, je pense qu'il écrira directement au service compétent pour lui demander. Et s'il n'arrive pas à obtenir par ce biais le rapport, il peut faire appel au procureur de la République qui, logiquement, devrait, dans cette hypothèse de résistance, qui de toute façon est déjà normale au départ, obtenir par biais de réquisition ce rapport. Normalement, ce problème devrait être résolu par ce biais-là.
On se recentre peut-être sur le thème de notre colloque. Y a-t-il d'autres questions?
Ça fait une lettre de plus pour le coup.
Pas d'autres questions? Bien, écoutez, il me revient peut-être la tâche de clôturer ce colloque. Alors, il est hors de question pour moi d'en tirer des conclusions. Peut-être des travaux de synthèse, mais bon, je vais tout simplement vous dire à très très bientôt. Je remercie les intervenants qui sont venus parfois même de très loin pour exprimer leurs témoignages, leurs connaissances. Et je remercie beaucoup les magistrats d'avoir répondu présents et ça témoigne véritablement de leur soutien et de leur intérêt à connaître nos préoccupations et essayer de trouver des solutions. Sachant que toutes les solutions, malheureusement, ne peuvent venir pas forcément que d'eux, mais de la chancellerie peut-être aussi. Et malheureusement, c'est pas si facile de les faire venir à Reims, à d'autres colloques. Voilà.
Ce n'est pas souvent qu'un premier président et des présidents de TGI restent intégralement à des colloques. Je peux vous assurer que bravo. Bravo.